Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumani.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
100 jours du gouvernement de Dr Boubou Cissé, qu'est-ce qui a changé? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nous avons trois invités. Sékou Niamé Batili de la majorité présidentielle, Nouhoum Sarr de l'opposition et Dr Ali Tounkara universitaire. Je suis Mohamedou Touré. Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes, je rappelle encore que vous nous suivez à travers 78 radios au Mali, 3 télévisions, Énergie TV, Renouveau TV et Belédougou TV et également en live sur Facebook.
Le Grand Dialogue.
Alors, Boubou Cissé, il a son gouvernement depuis 100 jours au Mali. Selon vous, aujourd'hui, M. Batili, quel est le bilan?
Bon, d'abord, essayons de fixer le contexte, situer plutôt le contexte. Docteur Boubou Cissé, quand il est venu dans un climat très tendu, on peut dire, il y avait tellement de choses à l'époque. A commencé par la grève des enseignants, ensuite la grève des cheminots et la grogne sociale avec les manifestations des religieux le 5 avril. Donc dans toutes ces situations, sans citer les différentes attaques, les massacres qui ont eu des populations civiles dans la région de Mofti, donc dans ce contexte que Dr Boubou Cissé le 22 avril a été nommé Premier ministre. Donc, il est venu déjà trouver une situation délétère. Il devrait, et il savait très bien qu'il doit chercher des solutions à tous ces problèmes, à toutes ces crises. Lui qui, depuis des années, étant ministre dans le gouvernement, il mesure toutes les conséquences. Et il mesure aussi la lourdeur de sa tâche pour venir à bout.
Donc vous pensez qu'aujourd'hui, son bilan est satisfaisant?
Aujourd'hui, on peut dire dès son arrivée, la grogne sociale d'abord. On a assisté lors des premiers conseils des ministres à des réponses claires par rapport aux différentes grèves, que ce soit des enseignants, des cheminots. Et déjà en mois de mai, les cheminots ont mis fin à leur grève. Ça, on peut dire que c'est dû à un climat apaisé. Parce que l'arrivée de Boubou d'abord, il faut en tout cas et savoir que ça a amené un apaisement.
Autant quand vous dites réponse claire, ça veut dire qu'il n'y aura plus de grève?
Non, bon. En tout cas, en ce qui concerne les enseignants, on a eu que des lois ont été prises, des décrets ont été adoptés lors des conseils des ministres qui ont apporté des solutions et pour le moment que ces solutions sont en train d'être exécutées sur le terrain. On a vu même la loi sur la grille des salaires des fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires des collectivités, mais des fonctionnaires aussi des fonctionnaires de l'administration générale, mais aussi qui prenaient en compte le code du travail du Mali. Donc ça veut dire des travailleurs non fonctionnaires de l'administration. Donc ces réponses-là ont permis en tout cas, mais il ne faut pas aussi oublier que la venue de Boubou a été aussi sous, on peut dire, l'accord politique de gouvernance qui avait demandé un moratoire par rapport à toutes ces grèves-là. Donc l'apaisement au niveau du front social, c'est très important. Ensuite, les deux missions que le Premier ministre Dr Boubou Cissé a eu à faire dans la région de Mofti ont amené une sorte de confiance. Parce qu'on a vu que sur le terrain, il y a eu un apaisement. On a même assisté au retour des déplacés, de certains déplacés. Donc tout ça, c'est des messages forts qui prouvent que les retours à la normale, on n'est pas loin de les dire.
Donc le bilan est positif selon vous?
Le bilan est plus que positif,
d'accord.
Mais on ne va pas aussi dire que tout est rose.
D'accord. Est-ce que le bilan est positif pour vous, Noum Sarr?
Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on parle de bilan en termes de résultats. Le constat, il est clair aujourd'hui. Les résultats ne sont pas là. Nous avons un gouvernement qui fait plus confiance à la communication, au superficiel, aux déclarations, aux effets d'annonce. Ils sont dans ça, mais ils ne sont pas dans l'obligation de résultats. La vérité, 100 jours...
Nous sommes tous
au Mali. En 100 jours, nous avons tous constaté que le pays est en train de se disloquer. En 100 jours, le drapeau du Mali a été souillé à Kidal. En 100 jours, la communauté nationale a commencé à prendre conscience que le gouvernement actuel, le régime actuel, a livré Kidal aux bandits de la SEMA. En 100 jours, pas plus tard qu'hier, avant-hier, il y a des mouvements de troupes autour de Tombouctou pour faire de Tombouctou un Kidal bis. La question du centre. Les Maliens dans le centre n'ont pas demandé à ce qu'on apaise. Ils ont demandé à ce qu'on règle leurs problèmes de sécurité. Ils ont demandé à ce qu'on déploie l'armée. Ils ont demandé à ce que la paix revienne. Mais ce ne sont pas des promenades de santé qui peuvent amener la paix dans ces régions. Pourquoi les communautés se sont armées? Mais c'est parce qu'il y a un État incapable d'assurer leur sécurité. Sur ce registre-là, quelles réponses on a apportées? En 100 jours, nous avons vu un scandale politico-militaire qui a été mis sur la place publique et qui a démontré à suffisance que le Mali est devenu un État voyou. En 100 jours, nous avons vu des politiques et le régime s'accrocher à un accord que nous avons dit. C'est un accord d'escroquerie politique qui ne règle à rien. En 100 jours, on a miroité un prétendu dialogue national qui, je pense aujourd'hui, ils ont compris, ils l'ont rangé dans le tiroir pour l'instant. En 100 jours,
mais en 100 jours, n'avez-vous pas constaté la fin des grèves?
Vous savez, la fin des grèves, c'est pour ça que nous disons tout le temps que dans ce pays, on a pris l'habitude de gérer les choses. On ne les règle pas. La question des cheminots. Les cheminots sont toujours sans... Ils sont à près de 9 mois sans salaire. Donc, on reporte les problèmes. Les anciens, l'ensemble des revendications n'ont pas été prises en compte. Donc, que de nouvelles grèves surgissent d'un moment à l'autre, que ce soit dans quelques mois, ça ne surprendra personne. En 100 jours, nous avons vu des bébés mourir au Gabriel Touré. Parce que le plateau sanitaire est complètement délabré parce qu'il y a un gouvernement qui est incapable de faire face aux urgences. Donc, qu'on sorte du superficiel, qu'on sorte des effets d'annonce, qu'on sorte de la communication et qu'on prenne les problèmes à bras le corps pour les régler et non les gérer. Le gouvernement Boubou Cissé, on le constate, n'a aucune initiative en matière économique. Rien qu'à l'approche des fêtes, faites un tour au marché, vous constaterez que le panier de la ménagère est souffrant. Donc, aucune politique de relance de l'économie. Ce que nous voyons, ce sont des annonces à la télé, c'est une promenade de santé dans le centre du pays. Malheureusement, les morts se poursuivent, les tueries se poursuivent.
D'accord, docteur.
Hier, il y a eu une embuscade où trois soldats de l'armée malienne sont morts.
D'accord.
Il y a deux jours, nous avons vu...
Quel est votre regard sur le bilan de Boubou Cissé?
Non, je pense que le bilan, il est vraiment pluriel. Il faut quand même rappeler les contextes qui est important, n'est pas le gommer. De la même manière, également, la circonstance aussi de sa nomination. Ces deux éléments me paraissent importants pour la saisie même de la suite. C'est vrai, lorsqu'on se réfère dans une temporalité courte, on pourrait dire qu'effectivement, au regard des situations antérieures, tant sur les plans sécuritaires, s'agissant même de la grogne sociale, s'agissant de certaines demandes, notamment dans les zones en conflit, il y a un semblant de calme, il faut quand même le saluer, ça c'est important naturellement. Quand on regarde aujourd'hui les dynamiques conflictuelles au centre du Mali, l'arrivée du docteur Boubou à aujourd'hui, des théories de masse, naturellement, font appel à des causes profondes, lesquelles causes me paraîtraient pas suffisamment prises en compte par l'élite actuelle. Il faut le rappeler quand même, les 100 jours du Premier ministre Boubou Cissé ne peut pas être exclu de la gouvernance globale du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, c'est extrêmement important. De ce fait, je pense que Que ce soit les enseignants, c'est vrai que ceux du secondaire ainsi que du primaire ont quand même mis un terme à des grèves intempestives, mais sauf que les gens ne s'interrogent pas sur l'utilité, enfin sur la finalité de ces différentes grèves qu'a connues l'école malienne cette année. Comment allez-vous évaluer des sujets scolaires avec des niveaux aussi médiocres et que ces derniers soient compétitifs? Voilà, ça c'est extrêmement important comme question à se poser. De la même manière également, si vous regardez quand même, les différents accords ont été signés entre les parties en conflit, notamment dans le centre du Mali, mais sauf que en analysant ces accords avec une attention particulière, on se rend compte quand même que ceux-ci ne sont pas forcément intéressés à ce que je qualifierais aux causes profondes de conflit. Aujourd'hui, si vous regardez les différents acteurs qui animent l'insécurité au sein du Mali, ne sont pas forcément partie prenante de ces différentes signatures. Ce sont des acteurs isolés, notamment, qui ne sont pas forcément inscrits dans un format qu'on pourrait qualifier de formel, ce qui rend beaucoup plus compliqué la gestion de la crise. Et dans le même temps, et il faut quand même aussi le dire à juste titre, si vous prenez aujourd'hui le cas de la grogne sociale, on sait quand même que une partie de l'opposition qui était très gênante aujourd'hui, elle est partie prenante quand même de l'équipe gouvernementale. Ça, c'est à s'allier, naturellement. Ça peut apporter de la calmie en termes de mouvements sociaux. Mais revenons quand même sur les questions sécuritaires qui me paraissent tout à fait intéressantes. Je trouverais quand même qu'il y a un enchevêtrement de logique. Hein. S'agissant de la nomination du président Diomkounda Traoré, en établissant un lien avec le plan sécuritaire pour le centre et toutes les autres initiatives parallèles à cela, et naturellement, la question de la cohérence quand même de l'action gouvernementale, elle se pose avec acuité. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, est-ce que Dr Boubou Cissé est parvenu aujourd'hui à questionner les causes profondes de l'insécurité au centre, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, Dr Boubou Cissé, avec son équipe, il n'est pas quand même le seul, sont à mesure aujourd'hui, avec son équipe, effectivement, de s'intéresser aussi aux raisons dites nord du Mali? On sait pertinemment que les facteurs...
Justement, il y a la célèbre Belaïdié Traoré qui pose la question sur Facebook. Il dit « Le gouvernement de Boubou Cissé est-il uniquement formé pour le sud et le centre? L'insécurité règne-t-elle seulement au sud et au centre car le nord se sent oublié sur tous les plans ?»
Je pense que une difficulté que prouve toute élite politique, c'est on éjecte l'instantanéité malheureusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la région de Mopti particulièrement qui attire davantage les attentions. Mais on comprend quand même que il y a un semblant d'accalmie, il faut quand même pas les nier dans les régions du nord du Mali, notamment dans les centres urbains. Mais on sait, ce n'est pas qu'à Dr Boubou de faire face à toutes ces difficultés liées à l'intervention de forces étrangères. Aujourd'hui, on sait pertinemment une minorité prise en otage, enfin, la population entière est prise en otage par une ultra-minorité à Kidal. Effectivement, est-ce que Dr Boubou Cissé, avec son équipe, serait capable ou serait quand même courageux, effectivement, de questionner ces raisons profondes? Je pense que lorsqu'on établit un quelconque bilan de 100 jours, dans l'instantanéité, naturellement, le bilan, il est positif. Mais quand on s'inscrit dans la durée, questionner également les actions antérieures à sa venue, voir aujourd'hui les résultats qui sont apportés par rapport à ces différentes souffrances auxquelles les populations font l'objet, naturellement, le bilan, il est vraiment pluriel. Hein, mais voilà, je disais tantôt qu'il faut vraiment les situer en deux temps. Le contexte de sa venue, ainsi que la circonstance également, ça c'est extrêmement important. On sait que les religions ont quand même naturellement contribué au départ du Premier ministre Boubou Maïga qui a soldé effectivement sa nomination. De ce fait, mais les raisons évoquées par ces différents acteurs, notamment religieux, est-ce que celles-ci ont été sérieusement traitées par Dr Boubou Cissé? Je pense que c'est vrai, il ne faut pas succomber aussi à la facilité de dire qu'il n'a rien apporté. Je pense que s'il y a quelque chose à saluer quand même en toute objectivité dans sa démarche, je comprends avec lui aisément. Aujourd'hui, le terroir, il est quand même questionné. Hein. Je suis avec une attention particulière. C'est différent des centres quand même sur le terrain, ce qui est à saluer quand même. Il va dans des zones à très haut risque.
Hein, on va y revenir tout de suite en détail. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les solutions que vous avez citées, apportées par Dr Boubou Cissé par rapport aux problèmes que vivent les Maliens aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce sont des solutions durables?
Oui, ce sont des solutions durables parce que moi, je te donne l'exemple sur la modification de la loi portant la fonction publique et aussi le code du travail. Ça, ce sont des solutions qui sont
On va y aller étape par étape. Oui. Concernant la sécurité d'abord, qui semble la principale préoccupation des Maliens aujourd'hui, est-ce que Dr Boubou Cissé est parvenu à élaborer des stratégies durables pour faire face à cette situation?
D'abord, dès après la mise en place de son gouvernement, on a vu la proposition du ministre des Affaires étrangères, M. Tchébilien Dramé, par rapport à la création de l'organe de gestion des crises au centre, qui compose plusieurs départements ministériels, mais aussi des personnalités de la société civile dans la région de Mofti. Et en plus aussi, c'est très important de le souligner, la descente du Premier ministre sur le terrain, parce que souvent cette descente-là ramène la confiance, l'apaisement.
Parce que pourquoi ces descentes à lui ramènent la confiance et les descentes des autres il y a eu des descentes
d'abord c'est,
bon je vais pas dire descentes il y a eu des visites de Soumaïlou Boubé Cissé Boubé Maïga pardon Maïga. Également
je sais peut-être la méthodologie la démarche parce qu'avec Dr Boubé Cissé s'il y a quelque chose à relever c'est que c'est un homme qui est humble et aussi l'humilité
ses prédécesseurs ne l'étaient-ils
pas je ne dirais pas ça mais c'est pour dire qu'il a montré qu'il est très simple et il a si conjuguer les efforts autour de lui et il a si aussi rassemblé autour de lui. Parce que le problème actuel du Mali dans la région de Mofti et dans les autres localités, c'est d'avoir le dialogue. Il faut qu'on puisse se regarder en face, il faut qu'on puisse se parler.
Dialogue entre qui et qui?
Entre gouvernants et gouvernés, à ça, mais entre les acteurs même de la crise. C'est très important. Lors de sa première visite, où il a fait 5 jours dans la région, une partie de la région de Mofti, on a vu qu'il y a eu des initiatives de pourparlers et qui ont conduit à la signature entre les différents acteurs de la crise dans la région de Mofti. Et après, lors de cette deuxième visite encore, on a vu des signatures. Ça, c'est très important. Peut-être d'aucuns vont penser que non, c'est la forme. C'est comme
justement, vous avez parlé de dialogue entre gouvernants et gouvernés et entre les principaux acteurs. Oui. Est-ce que vous pensez que les gouvernés, les citoyens lambda, eux, sont écoutés? Est-ce qu'ils ont accès à ces dialogues?
Et c'est pourquoi d'ailleurs l'accord politique de gouvernance qui est...
Non, est-ce que déjà les stratégies qui ont été mises en place prennent en compte les préoccupations de ces citoyens-là en les écoutant, pas en réfléchissant à leur place?
Mais les visites là, l'objectif c'est quoi? C'est d'écouter en tout cas les populations d'abord. C'est de recenser leurs doléances. C'est de vivre avec eux leur quotidien.
Pourtant, les responsables de Gina Dogon et de Tabital Pouakou sur ce même plateau ont dénoncé une chose. Selon eux, les acteurs clés principaux de cette situation ne sont pas écoutés. Ce sont d'autres personnes qui viennent les représenter et qui, selon eux, ne sont pas réellement représentatifs.
Bon, avec les organisations au Mali ici, tout le monde connaît comment ça se passe. Souvent, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là.
Donc, ils ne sont pas crédibles, vous voulez dire?
Non, je ne dirais pas ça. Mais le Premier ministre, dans sa visite dans la région de Mofti, rencontre obligatoirement les responsables, que ce soit administratifs, politiques, mais aussi les responsables des autorités traditionnelles, coutumières, sur place, mais aussi les populations. On a vu des rencontres du Premier ministre avec les populations qui sont directement concernées. On a vu des distributions de vivres se destiner à qui? À la population. On a vu des déplacés qui ont accepté de revenir chez eux. Ça, ce sont des acteurs qui sont impliqués directement.
D'accord. Noumsar, vous pensez que le bilan n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce que vous reprochez aux actions du gouvernement de
aujourd'hui, à l'heure où nous émettons, la commune de Gabéro, dans le secteur de Gao, est contrôlée par les djihadistes. À l'heure où nous émettons, la charia est appliquée dans une bonne partie du secteur de Niafunke et de Diri. Ce sont des faits vérifiables et qui existent. Les populations du centre n'ont pas demandé à ce qu'on leur apporte des vivres. Les populations du centre ont demandé à être en sécurité pour qu'ils aillent cultiver leurs terres. Ils ont demandé à être en sécurité pour s'occuper de leur bétail. Ils n'ont pas demandé ce que le Premier ministre vienne se promener dans le centre. Ils ont demandé à ce qu'on leur apporte la paix et la sécurité. Ils ont demandé à ce que l'État assume ses fonctions régaliennes. C'est ça qu'ils demandent. Mais ce n'est pas des promenades de santé qu'ils ont demandé. Donc nous sommes désolés. Les faits sont là. Les faits sont têtus. Vous savez, la crise que nous connaissons est une crise de gouvernance. Et la gouvernance,
c'est un régime qui l'incarne. Et ce que vous incarnez aujourd'hui, ce que le régime incarne, c'est la corruption d'État. Ce sont les détournements, c'est le business, ce sont les bakchis, ça et là.
Mais n'y a-t-il pas un changement positif, donc, aussi minime soit-il, depuis l'arrivée de Boubou Cissé? N'y a-t-il pas cela?
Je vous ai dit que pour moi, il est trop tôt pour parler même de bilan. Un bilan, c'est sur une durée. Mais en termes de résultats.
Donc pour le moment, on ne peut pas encore dire que le bilan est positif ou négatif.
En termes de résultats, les faits sont là. Hier soir, 3 militaires maliens ont été tués. Il y a quelques jours, des Dogons ont été descendus de bus et ils ont été tués.
Oui. Mais les quand on fait la comparaison avant l'arrivée de Dr Boubou Cissé et depuis son arrivée, est-ce qu'il n'y a pas eu une accalmie par rapport à cette situation?
Moi, je ne l'ai pas constaté.
D'accord.
Parce que là où il y a eu l'accalmie, peut-être c'est la rengaine des médias à aller voir les choses sur le terrain. C'est parce que les médias, les tueries sont devenues tellement banales qu'on est lassé, qu'on est fatigué de les médiatiser. Tous les jours que Dieu fait, des gens sont tués à Gao, des gens sont tués à Menaka, des gens sont tués à Kidal, des gens sont tués à Bayangara et Koro. Ce sont des faits. Et nous l'avons dit, nous insistons, nous persistons. La crise sécuritaire dans le centre et au Sahel est une crise de gouvernance.
Pourtant, les médias continuent à jouer leur rôle par rapport à l'information. Quand il y a une attaque, ça ne se cache pas.
Aujourd'hui, je veux vous le répéter, nous l'avons toujours dit, la gestion politico-administrative d'un pays, c'est comme la guerre. C'est la guerre sans les fusils. La guerre, c'est la gestion politico-administrative, mais cette fois-ci avec les fusils, avec les armes. Dans tous les deux cas, à un moment donné, c'est le chef qui fixe le cap. Mais nous avons un chef d'État qui ne connaît même pas c'est quoi le cap, a plus forte raison de fixer le cap, qui ne se plaît que dans l'arrogance, dans les injures, jeune Africain est témoin. Quand vous parlez d'accalmie, mais aujourd'hui nous sommes dans le repos du lion, l'opposition est dans le repos du lion. C'est ça la vérité. Et vous avez dit une contre-vérité, que l'opposition est au gouvernement. Nous nous inscrivons en faux. L'opposition n'est pas au gouvernement. L'accord politique est un acte qui a été signé par certains partis politiques de l'opposition, qui étaient épuisés de la résistance. C'est un acte qui a consacré le passage de certains partis politiques de l'opposition vers la majorité, pour ne pas dire la majoire. C'est ça la vérité historique. Et c'est une petite minorité de l'opposition qui a signé. Et c'était bien sûr entouré de combines politiciennes totalement irresponsables et hantées, ce qui fait que la frange la plus importante de l'opposition est restée ferme dans sa ligne droite de gardien du temple, dans sa ligne droite de défense du Mali, dans sa ligne droite de défense des intérêts supérieurs de notre peuple. Le constat, il est là. Monsieur Boubou Cissé, malgré sa volonté, malgré sa détermination, malgré le fait qu'il va changer les choses, sans l'existence d'une vision, ce que nous appelons un cap, rien ne marchera. Ça, c'est incontestable à tout point de vue.
Donc, cette vision, Touré, elle manque à qui? Vous avez parlé de la détermination, de la volonté, savez, de Dr Boubou Cissé, mais malgré
pays,
cela...
La gestion d'un pays, ce ne sont pas des promenades de santé. La gestion d'un pays, ce ne sont pas des déclarations sucrées.
Mais si,
la
gestion d'un pays, excusez-moi, c'est une vision. Ce sont vos mots, s'il fait des promenades de santé, est-ce qu'il est en ce moment déterminé?
Quand je dis, bon, on peut être déterminé pour faire des promenades de santé quand même. Hein.
Donc,
on peut
pas déterminé pour la cause des maladies.
On peut être déterminé pour faire des promenades de santé.
D'accord.
C'est une vérité.
Voilà. D'accord. Alors, docteur Ali Tunkara, vous, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce que pense Noam Sarr, représentant de l'opposition, que le bilan est vraiment négatif? Est-ce que vous pensez qu'il est autant négatif?
Alors, je pense que M. Sarr, il pourrait relativiser certainement lors de la prochaine prise de parole. J'imagine que, vraiment, je reconnais avec lui, lorsqu'on s'intéresse aux causes profondes, de cette insécurité, y compris même de la grogne sociale, naturellement, ce sont quand même des causes très structurelles. Hein. J'ai dit très souvent dans mes analyses, une crise sécuritaire, c'est pas pour épauler l'élite en commande, une crise sécuritaire, on ne la balaye pas avec une telle facilité aussi, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est particulièrement pour le cas américain, les différents chefs d'État qui sont succédés ces 15 dernières années aux États-Unis avaient tous promis aux Américains de mettre un terme à l'engagement américain en Irak et en Afghanistan. Donc, ça veut dire que la gestion d'une crise d'une telle ampleur, naturellement, prend du temps. Ce n'est pas parce qu'on aime ou on n'aime pas ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. J'ai la ferme conviction, même si l'opposition demain serait aux commandes, naturellement, elle va avoir affaire avec un certain nombre de difficultés qui sont vraiment objectives. Maintenant, cela étant, il est quand même important aujourd'hui de dire un certain nombre de choses également qui ne sont pas forcément au cœur de l'analyse politique aujourd'hui au Mali. J'ai pas entendu d'une seconde de la part d'un gouvernement s'intéresser réellement aux causes profondes. J'entends par causes profondes, par exemple, l'accès aux ressources naturelles. Moi, je dis aux gens, demain, vous ramenez les soninkés dans la région de Mopti qui vont cohabiter avec les bois. Du moment où ces deux communautés vont partager le même espace naturellement, si on a un foncier pour l'agriculture et qu'on n'a pas un foncier pour l'élevage naturellement, les deux communautés vont s'affronter. Demain, vous faites appel au Kasonke, vous faites appel à une autre communauté également. Du moment où la gouvernance locale déjà est hypothéquée naturellement, les deux vont s'affronter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les réponses qui sont apportées ne s'inscrivent pas de la temporalité. Je n'ai pas entendu dans ces différentes déclarations de faire allusion, par exemple, à la manière dont la justice est rendue. Et que vous soyez Dogon ou soyez Peul dans la région de Mopti, naturellement, les deux communautés s'accordent sur le fait que la justice est sérieusement mal distribuée. Je n'ai pas entendu de la part du docteur Boubou Cissé de faire recours, effectivement, à ces questions foncières. Est-ce que aujourd'hui, docteur Boubou, avec son équipe, pourrait dire aux Maliens, voilà quelles sont nos initiatives quant à l'accès aux ressources naturelles. Voilà nos initiatives quant à la gestion même du foncier. Voilà nos initiatives quant aux questions des pâturages. Je pense que nous déplaçons le centre de gravité des problèmes. De la même manière également, si vous vous intéressez aux régions dites nord du Mali, notamment avec son corollaire sécuritaire, vous allez vous rendre compte que ce sont des localités aujourd'hui qui sont à la limite un peu mises dans les tiroirs par le simple fait qu'on ne s'intéresse qu'à l'instantanéité. Est-ce qu'aujourd'hui, Dr. Boussissé avec son équipe aurait des plans vraiment concrets en termes de désarmement et de toutes les communautés qui sont armées, qui ne sont pas censées de l'être, sans pour autant s'inscrire dans une posture, si vous voulez, de sélectivité. Je pense que ce sont des questions fondamentales aujourd'hui. Est-ce que Dr. Boubou Cissé, dans une de ses déclarations, a fait allusion à ces pratiques corruptives dont les agents de l'État font l'objet? Je pense que lorsqu'on se questionne pas sur ces causes profondes, naturellement, toutes ces solutions provisoires apportées difficilement pourrait combler les attentes légitimes qu'ont les communautés. Mais à ce que cela ne tienne, il faut quand même aussi saluer ce début de dialogue. Moi, je pense que on a beau être outillé du point de vue militaire, on a beau être dans des gouvernances de qualité, le dialogue est quand même indispensable. Les Américains ont refusé catégoriquement, à un moment donné, leur parcours, de négocier avec les talibans. Aujourd'hui, les négociations sont en cours à Qatar. Donc, je peux vous dire que le fait qu'aujourd'hui, il se rend quand même lui-même, ça, c'est quand même à saluer, dans ces différentes localité en proie à l'insécurité, ne serait-ce que recevoir les communautés à partir du terroir et échanger avec elles, c'est quand même à saluer, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la majorité. Voilà, mais c'est vrai que, tout est-il qu'il est important, s'il veut vraiment marquer l'histoire, de ne pas se contenter de la cube de surface, vraiment de le creuser, et d'avoir le courage, justement, de dire aujourd'hui qu'effectivement, la question d'éthique et de morale chez les agents de l'État, en grande partie, posent des véritables soucis, et lesquels soucis font qu'aujourd'hui nous assistons à cette récurrence de l'insécurité. Je pense que sans ces questions profondes de l'insécurité, c'est vrai que des solutions vont être apportées ça et là, mais difficilement on pourrait arriver à une paix durable. Qui parle d'une paix durable parle naturellement de cette justice dont les Maliens demandent autant.
D'accord, Monsieur Batili. Alors concernant la gouvernance, qui est, parce que beaucoup pensent aujourd'hui que le principal problème de la situation au Mali, de la crise au Mali, c'est la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce que on peut avoir comme bilan positif de Dr. Boubou Cissé?
Bon, d'abord, il va falloir que nous sachions que le gouvernement de Dr. Boubou Cissé réside par l'accord politique de gouvernement. C'est très important. Parce que c'est cet accord qui a permis la formation du gouvernement. Et c'est cet accord qui a permis l'entrée de l'opposition. J'ai dit bien l'opposition dans les gouvernements. C'est très bien que mon ami...
Ceux qui sont dans le gouvernement ne sont plus des opposants. Donc, concernant la lutte contre la mauvaise gouvernance...
Le moment où ils entraient en gouvernement, ils étaient de l'opposition. L'opposition ne peut pas se résumer seulement au FSD. Il faut que mon ami nous arrête les sas.
Aujourd'hui, maintenant, ils ne sont plus des opposants.
Maintenant, l'accord politique de gouvernance prévoit beaucoup de choses. Cet accord politique de gouvernance prévoit en son chapitre D, articles 5, 6, 7 et 8, un dialogue intermalien. C'est lors de ces dialogues-là, on va mettre tout sur la table et discuter de tout. Les problèmes dont vous évoquez, ce sont des problèmes réels, des problèmes qui ne sont pas ignorés par le gouvernement de Dr. Boubou Cissé. D'ailleurs, le gouvernement s'attelle de jour à jour à apporter des solutions à ces problèmes-là. C'est pourquoi on dit que le dialogue politique inclusif va permettre aux acteurs de la crise de se parler.
D'accord. Vous mettez beaucoup l'accent sur le dialogue politique.
Oui,
mais concerne en 100 jours, qu'est-ce qui a changé par rapport à la mauvaise gouvernance au Mali? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'accès à la justice? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la lutte contre la corruption?
En 100 jours, d'abord, il va falloir qu'on sache que le gouvernement a été formé sur une période d'une année. Bien sûr, on est en train de parler de 100 jours, le bilan des 100 jours. Mais on ne doit pas être aussi trop pressé et dire qu'en 100 jours, le Premier ministre Dr. Boubou Cissé va régler une crise qui perdure depuis combien d'années? Non. Si on essaie de mesurer comme ça, forcément, on va dire que le bilan est négatif. Mais ce n'est pas ça. On a vu récemment.
Aujourd'hui, ce sont des victimes. Ce sont des victimes qui sont en train de vous écouter. Ce sont des gens qui souffrent de cette situation, qui sont en train d'écouter. Pouvez-vous leur dire qu'il y a quelque chose qui est fait pour que la situation puisse être stable, pour lutter contre la mauvaise gouvernance? Qu'est-ce qui a été fait en 100 jours? Qu'est-ce qui a été entamé?
Moi, je prends un exemple par rapport à la justice. La justice, le ministre Malick Coulibaly entrepris des actions. Il dit la réforme judiciaire qui est en cours actuellement. Donc, il est en train de travailler sur une loi. Et d'ailleurs, il a procédé à des nominations de magistrats et qui a restauré aussi de la confiance. Parce qu'au moment de ces répartitions-là, on a vu qu'il y a eu tellement de bruit autour de ça. Donc, ça voudrait dire quoi? C'est un ministre qui est venu à un département, un ministre à qui les Maliens ont confiance. Parce que l'intégrité de M. Malick Coulibaly a été avérée avant aujourd'hui. Donc ça, déjà, c'est une marque de confiance qui est là. Et avec aussi le mouvement au milieu des magistrats, ça a permis aussi un peu de confiance.
D'accord. Mais beaucoup de Maliens sont d'accord sur une chose, qu'il n'y a pas de problème d'hommes au Mali, il n'y a pas de problème de ministère au Mali, il n'y a pas de problème de texte au Mali. Quel est le problème selon eux? C'est un problème de résultat. Alors le résultat, est-ce qu'il est là?
Oui, le résultat, ce n'est pas en 100 jours qu'on aura le résultat sur la corruption.
Quand est-ce qu'on pourra l'avoir?
Qu'on peut avoir un résultat. C'est pourquoi il faudra savoir que 100 jours n'est pas suffisant pour voir des réelles avancées sur le terrain. Il faudra attendre. On a donné un mandat d'une année à un gouvernement qui est là. Le gouvernement est en train de travailler dans ce sens-là. Au bout de 6 mois, Dr. Boubou Cissé dit qu'il va évaluer au bout de 6 mois les différents départements. Donnons-lui le temps de travailler.
Au bout de 6 mois, nous reviendrons sur ce plateau pour encore faire le bilan. En attendant, Mouhoum Sarr, aujourd'hui, vous, en tant que représentant de l'opposition, vous dénoncez une chose, qu'il y a un manque de vision au sein de ce gouvernement. Qu'est-ce que l'opposition fait aujourd'hui pour combler ce manque de vision?
D'abord, ce n'est pas le rôle de l'opposition.
L'opposition est là également pour contribuer à la stabilisation.
Le rôle d'une opposition, c'est de tirer la sonnette d'alarme. C'est de dénoncer quand il faut. C'est de dire, vous êtes sur ce chemin, il est dangereux, faites marche arrière. Le rôle de l'opposition, c'est apporter sa contribution en termes d'analyse. Et quand il s'agit d'analyse, l'opposition malienne est l'une des oppositions les plus responsables en ce domaine. Mais avant, il convient de rétablir
certaines choses. Est-ce que l'opposition n'a pas le droit de faire des propositions? Vous savez, cher gouvernant, voici ce qui ne va pas au Mali, voici ce que nous proposons.
Vous savez, il y a un problème dans ce pays. Les gens ont été élus, ils ont dit qu'ils ont été élus. Les gens ont passé six ans au pouvoir. Ils sont incapables de résoudre les problèmes du pays. et aujourd'hui on demande à l'opposition, eh bien, viens. Ils n'ont qu'à quitter, nous viendrons résoudre le problème. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on soit pragmatique dans ce pays. On ne peut pas dire qu'on peut gérer le pays, qu'on peut régler le problème des Maliens et continuer à demander à l'opposition qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais qu'ils quittent et nous, on viendra, on va régler le problème. Mais avant, il convient de rétablir certaines choses. C'est une erreur de poursuivre que l'accord politique va régler les problèmes. Nous avons dit ici, sur ce même plateau, que c'est de l'escroquerie politique. Le parti de Cheikh Mouride Oudjala, le document qu'il a signé est différent du document signé par nos anciens camarades de l'opposition. Si ce n'est pas de l'escroquerie, où est l'escroquerie? Ça veut dire que nous, on ne connaît pas le sens du mot escroquerie. Ce sont des faits. Aujourd'hui, le Gabriel Touré est devenu une mouroie. Les enfants meurent à longueur de journée. C'est à quelques mètres des bureaux de Boubou Cissé.
Et comment changer
donc,
tout cela?
Ce sont des faits qui sont là. Le dialogue politique, vous avez fait allusion. Je pense que M. Bathily est peut-être le seul au Mali à croire encore à ce dialogue. Même si le triomvirat plus un, ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus.
Non.
Honnêtement, c'est
ce que tu dis.
Mais on le constate.
Non.
La frange la plus importante
il nous reste 10
de la
minutes.
Classe politique malienne.
Ce temps qui nous reste aux solutions.
Pas à
aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que la situation puisse devenir encore plus stable?
Nous avons dit, le FAD l'a dit, le FAD le répète, nous insistons, nous persistons. Il est indispensable pour notre pays d'aller le plus rapidement possible à une conférence nationale souveraine qui posera toutes les questions, y compris le départ de l'actuel régime. C'est une condition indispensable. Je vais vous donner un exemple. Le Bénin, au moment où les difficultés des difficultés par rapport à l'existence même du pays s'est posée, mais en 90-91, il a fallu que le chef de l'État qui dirigeait le pays d'une main de fer, qui avait fait main basse sur toutes les institutions, qu'il sorte de son orgueil et de son arrogance pour dire je convoque le peuple béninois à une conférence nationale souveraine et je
le
me
soumettrai. Le dialogue politique ne donc, peut-il pas être une première
mais
étape
il l'a
à
dit,
cette
mais je vous dis, ce dialogue politique-là, le débat est clos. Mais le chef d'État lui-même, dans Jeune Afrique, il a clos le dialogue politique. Il a dit que les conclusions ne s'imposeront pas à lui. Donc, les Sekounia Mbatili et les quelques zélateurs qui sont autour du chef de l'État continuent à dire au peuple malien, les faits sont là. On nous a dit dans ce pays que l'armée monte en puissance. Les mêmes qui ont tenu ces propos sont venus mettre sur la place publique que les hélicoptères et les avions de chasse sont coulés au sol.
Donc une conférence.
Donc c'est pour dire, vous avez parlé de la corruption. Dans tous les pays,
ce qui va résoudre tout ça, selon vous, c'est une conférence souveraine.
Nationale, souveraine, qui posera toutes les questions, y compris le départ de l'actuel régime, parce que l'actuel régime n'a ni la solution, n'a ni la volonté d'avoir la solution. Il est devenu, au contraire, une bonne partie du problème qu'il faut résoudre.
D'accord. Docteur Ali Tunkara, que faut-il aujourd'hui comme solution concrète?
Bon, les solutions sont plurielles pour ne pas tomber dans le jugement. Je pense fondamentalement, il est important aujourd'hui quand même qu'on les reconnaisse, qu'on soit de l'opposition de la majorité, que le président Ibrahim Boubacar Keïta éprouve de sérieuses difficultés à mettre un terme à la corruption. Ça c'est indéniable. Tout Malien le sait. Je pense que si quelqu'un nie cela, je pense qu'il n'a jamais emprunté un carrefour à Bamako ici. C'est important. Et pour ce faire, je pense que ces efforts, des privations et des sacrifices, devaient venir d'abord de l'État.
Face à cela, il y a Noum Sall qui pense que c'est le départ du gouvernement qui peut être la solution.
Ça, c'est aussi antidémocratique. Je pense qu'il faut que M. Sall, quand même, le retire. C'est important. Quand on est démocrate aussi, on doit accepter que les élections soient triquées ou pas, du moment où elles sont quand même validées. Vouloir clamer le départ d'un quinquennat qui est quand même démocratiquement élu, peu importe le processus qui a été entaché selon certaines lectures des irrégularités. Mais demander son départ, c'est aussi antidémocratique. Ça, c'est important de intégré dans l'analyse. Alors maintenant, je pense fondamentalement, vraiment, il faudra que le président Ibrahim Boubacar Keïta et son entourage soient exemplaires pour les Maliens. Et il est quand même inconcevable aujourd'hui de s'adresser à ces différentes communautés éprouvées par l'insécurité, d'être juste entre elles. Et dans le même temps, effectivement, ceux qui sont aux commandes à Bamako ici font l'objet de pratiques corruptives à ciel ouvert. C'est quand même paradoxal. De la même manière également, je pense que une des difficultés aujourd'hui, on parle beaucoup du dialogue politique. Une chose est sûre, ce dialogue politique, il y a quand même des points qu'on pourrait même qualifier d'intouchables, en fait. On n'est pas sans savoir quand même que certaines parties prenantes de l'accord pour la paix et la réconciliation ne veulent pas qu'on parle même de l'accord dans ces différents dialogues. Vous voyez, donc déjà, le dialogue, il est biaisé. De la même manière également, aujourd'hui, les Maliens ont pris la parole. Majoritairement, ceci, on demande à ce qu'on négocie avec le groupe radicaux violent, avec le référent musulman. En écoutant le président Ibrahim Boubacar Keïta, récemment également son ministre des Affaires étrangères, naturellement, CD oppose un refus catégorique à un tel dialogue avec les groupes radicaux violents. Et comment voulez-vous apporter des solutions durables à une situation sécuritaire qui avait été provoquée par des acteurs clés, lesquels acteurs clés sont mis sous la touche? Je pense qu'aujourd'hui, le président Ibrahim Boubacar Keïta, avec son entourage, doit avoir le courage, effectivement, de faire face à certains acteurs extérieurs quant aux solutions locales afin que celles-ci aient un ancrage. Et pour finir cela, je pense que une des urgences aujourd'hui dans le contexte malien, c'est de sortir dans les déni. Vous n'allez pas donner la parole aux gens et dans le même temps, vous avez un agenda quand même qui est déjà calé. C'est là qu'on est vraiment dans les déni. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, vous demandez aux Maliens, aux citoyens lambda, qu'attendez-vous par la crise sécuritaire au centre ou dans les régions du nord du Mali? Naturellement, les gens vont parler de négocier avec Yadag Ali, de négocier avec Hamadoun Koufa et d'autres Katiba qui sont connus dans ces différentes localités. Mais si vous dites que vous n'allez pas négocier avec ceci, naturellement, ça pose pour ceci. Dans le même temps, beaucoup de Maliens aujourd'hui, même si certains sont d'accord avec l'accord pour la paix, beaucoup quand même continuent à ne pas incorporer cet accord. Il faut quand même les entendre également. Mais s'il n'y a pas lieu de revenir sur cet accord, il n'y a pas lieu de déclencher le dialogue avec le groupe radicaux violent, je pense quand même qu'un tel dialogue il est quand même biaisé dès son départ.
D'accord. Comme solution pour le gouvernement aujourd'hui, selon vous, est-ce que tout passe par le dialogue politique?
Oui. Pour moi, le départ, c'est le dialogue. Le départ, c'est le dialogue.
Et quand est-ce que ce dialogue va avoir lieu?
Sans ce dialogue politique-là, rien n'est possible. Parce qu'il faut qu'on accepte de se parler entre nous. Le gouvernement a déjà balisé le terrain avec la signature de l'accord politique de gouvernance. Le triumvirat a commencé à rencontrer les acteurs du dialogue. Maintenant, il faut les accompagner. Il faut qu'au Mali, actuellement...
Y a-t-il une date pour tenir ce dialogue politique?
Non, c'est des concertations qui sont en cours. Et je vais dire à mon ami, nous, peut-être même les partis politiques qui n'ont pas signé l'accord politique de gouvernance ont accepté d'aller au dialogue. Et aujourd'hui, quand j'entends que ces dialogues, personne ne croit à ces dialogues-là, je suis désolé. Les chefs de file de l'opposition.
D'accord. Sur Facebook, il y a Ibrahim Diko Aljuma qui pose une question que beaucoup de Maliens se posent aujourd'hui. À quand la fin de la crise au Mali?
Une question que nul ne saurait répondre.
Même le gouvernement.
Nous souhaitons, nous souhaitons de tout cœur que ça sera très prochainement.
Êtes-vous convaincu que la crise va prendre fin très prochainement?
En tout cas, pas avec ce régime. C'est un fait. Ce sont des gens qui sont dans la dénégation, qui sont dans le déni permanent de réalité. Ils n'ont aucune vision. La preuve, un Premier ministre nommé il y a 3 mois, jusqu'à l'heure où nous sommes, il n'y a pas de déclaration de politique générale. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire. Donc nous prenons les gens au mot. La crise du Mali prendra fin quand le peuple malien décidera de se rassembler, de faire l'union sacrée pour dégager ce régime.
Pensez-vous qu'on est sur la bonne lancée pour que cette crise prenne fin?
Oui, un optimisme prudent. Il y a quand même des vies de dialogue. Il faut le saluer sa juste valeur. Mais dans le même temps, au-delà de la rhétorique, il est extrêmement important aujourd'hui. Quand même, je trouve que la corruption est plus grave que l'insécurité. Sur ce plan, en toute objectivité, franchement, les 20 dernières années de la gouvernance malienne, on connaît quand même, si vous voulez, des avancées plus que pitoyables à ce stade. Je pense que le premier problème qui est aujourd'hui, si il a un champ de bataille aujourd'hui, ce champ s'appelle la lutte contre la corruption. Il l'a dit, il l'a réitéré, mais franchement, au bout du tunnel, que du vent.
Merci et nous aurons d'autres occasions pour faire le bilan encore de ce gouvernement. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment améliorer ce qui ne marche pas selon les uns et les autres. Merci à nos invités, Sékou Niamé Batili qui représentait la majorité présidentielle, Nouhoum Sarr qui était là au nom de l'opposition et Dr Ali Tunkara universitaire. À la régie et vidéo et audio, Gagné Kanté et Seydoumbo, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain grand dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Dumangi.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.